Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
C'est la première fois que je me présente devant un public comme vous qui appartient à Rage. Je le connais, mais je n'ai pas eu de contact avec eux. C'est en quelque sorte grâce à mon ami Djabi qui a insisté pour que je participe à cette cérémonie qui m'intéresse. Alors, un mot pour vous présenter ce qu'on est en train de faire sur les questions d'immigration. Je suis à l'Université d'Alger, mais à l'Université d'Alger, il n'y a pas une équipe proprement qui parle sur qui travaille sur ces questions. Ce qui nous a obligés un petit peu à se rabattre sur le CRIAD, c'est un centre de recherche en économie appliquée. Et au sein de ce centre, on a créé une équipe qui s'intéresse aux questions d'immigration internationale et mobilité. Et on a réalisé un certain nombre d'études, mais il faut dire que sur les questions du subsaharien, on n'a pas encore produit un travail qui peut être considéré comme une contribution académique et universitaire. On a des discussions, des éléments de... quelques parmi nous ont écrit certains articles, mais on n'a pas mené une réflexion. Et depuis un certain temps, un petit peu, on s'est déplacé dans notre champ de réflexion de l'intérêt pour les questions de la migration à travers la situation des Algériens à l'étranger, pour s'intéresser aux migrants, aux étrangers qui vivent sur notre territoire. Et on a commencé par un premier travail, une enquête nationale qu'on a pu réaliser dans le cadre du PNR sur les étrangers en Algérie. Et dans le prolongement de cette étude, qui est consacré non pas aux subsahariens, mais aux étrangers de manière générale. Et le subsaharien, c'est un segment qui fait partie de l'échantillon étudié. Mais sur la question du subsaharien, il faut dire que sur cette question, il y a un déficit un petit peu en matière de production scientifique, dans la mesure où on n'a pas pratiquement pas beaucoup d'études, pour ne pas dire une étude. La première étude qui a été faite par une association qui s'appelle le CHISP, avec une association algérienne sur le profil des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie. Ça date de 2006. Ensuite, il y avait une coupure dans la mesure où il n'y a pas une recherche scientifique, académique, mais il y a des enquêtes qui ont été faites par des organisations comme le Médecin du Monde, qui a fait deux enquêtes. Une enquête sur le profil des subsahariens, qui n'a pas, je pense, abouti, et n'a pas été terminée. Et une seconde sur la scolarisation des enfants de migrants. Et puis, peut-être depuis là, on n'a pas d'études. En 2016, nous avons commencé une étude qu'on n'a pas pu terminer, sur les femmes subsahariennes, mais avec Caritas. Caritas a pu obtenir un financement de l'Union européenne et il ne savait pas sur quelle thématique le départ était question de travailler sur les subsahariens. Et puis on s'est déplacé vers les femmes subsahariennes. Alors, pourquoi s'intéresse aux femmes subsahariennes? Pourquoi nous, on a participé avec Caritas pour les subsahariens? Alors ça remonte, c'est un petit peu, il faut s'insérer peut-être dans la démarche qu'on est en train d'établir pour comprendre le phénomène de l'évolution migratoire de l'Algérie. Alors disons, on a quelques constats. Et le premier constat, c'est qu'on a l'habitude de dire que l'Algérie, avant, est un pays d'immigration et puis elle est devenue un pays de transit et un pays d'installation. Peut-être il y a lieu d'un petit peu de préciser un peu davantage ce constat pour dire, avant d'être un pays d'immigration, l'Algérie était un pays d'immigration. et à l'installation de populations étrangères, peut-être avant que l'Algérie ait devenu un pays d'exportateurs de main-d'œuvre. Et puis tout en devenant un pays d'immigration, il y a un phénomène d'installation d'une diversité de populations d'étrangers sur le territoire algérien, et qui a créé une situation un petit peu qui a donné lieu après à une évolution. Alors premier, c'est qu'il y a l'installation d'une catégorie qu'on appelle les copurants, et puis il y a l'installation des premiers contingents de réfugiés, et puis là, avec, dans les années 2000, l'apparition des subsahariens et des migrants africains et étrangers qui, dans leur projet vers l'Europe, se trouvent dans une situation d'attente sur le territoire algérien. Et puis dernièrement, avec le mouvement des migrations de crise et qui a un petit peu déclenché et dans laquelle la présence des femmes est apparue très importante. Alors nous, on a inventé un mot, je parle sous la contrôle de notre ami Kadri. Nous, on s'est dit sur quel type de théorie maintenant il faut se situer pour comprendre cette évolution. On a dit, pour le moment, c'est une situation, si on peut exprimer ça, de transition migratoire. Dans la mesure où le modèle sur lequel il est en train d'évoluer est en construction, et que cette construction, il y a lieu maintenant de la réfléchir. Ici, à partir de là, qu'on a situé un peu l'étude et la présentation que je vais vous faire. Alors, cette situation nous permet un peu, on l'a fait avec les étrangers, et on l'a fait avec... ça consiste à reconstituer des itinéraires de réalisation des projets migratoires. Il est reconstitué à travers quatre temps. Alors on a le temps, les quatre temps. Premier temps, c'est la construction de projets dans le pays d'origine. Comment ce projet est construit avant de venir ici en Algérie. Deuxième temps, c'est la gestion de la traversée des espaces de circulation, le voyage du pays d'origine jusqu'à maintenant ici. Et troisième temps, c'est l'installation dans l'espace d'attente. On n'a pas dit installation. C'est une installation et dans l'enquête qui a été réalisée par le CHISP, les enquêtés déclarent qu'elles viennent ici dans la majorité pour aller en Europe, et par le fait des difficultés d'aller en Europe, elles s'installent dans la durée en Algérie, et par là elles commencent à se transformer en une forme nouvelle d'immigration que peut-être ni le dispositif ni la société algérienne est prête pour. Ce qui donne un quatrième temps, c'est un temps de reconstruction du projet migratoire. Ou bien retourner dans le pays d'origine, ou bien attendre peut-être aller en Europe. Et là, l'installation de l'attente pour aller en Europe n'est pas la même qu'une installation définitive. Et on va voir après dans les tableaux que je vais vous donner, que lorsqu'on leur demande « est-ce que vous voulez rester en Algérie ?», la première réponse donnée par les enquêtés disent que le nombre de femmes qui veulent rester en Algérie est très faible. Mais ça n'explique pas que l'installation ne va pas dans la durée et que cette installation d'attente peut déboucher sur une installation définitive. Alors, l'enquête qu'on a faite a touché plusieurs nationalités, mais on se rendait compte que la nationalité, par le B peut-être des techniques d'échantillonnage, nous a donné que les Camerounaises sont les plus importantes. Alors, le nombre de Camerounaises, on a enquêté 553 à Oran, à G. Et Tamal Rasset, il était question que l'on enquête à Naba, mais on ne l'a pas fait pour des raisons peut-être d'organisation, et puis des raisons de capacité d'accès, d'accès aux enquêtés eux-mêmes. Les autres nationalités, il y a 18 nationalités, parmi ces nationalités les plus importantes, mais le fait qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on a réalisé cette enquête, les femmes en provenance du Niger ne sont pas très nombreuses. Alors que maintenant, elles sont plus nombreuses qu'avant. Alors, quelques données pour vous expliquer un petit peu, vous restituer les quatre tons. On a pris une seule variable, on n'a pas voulu diversifier les variables, c'est la variable en termes de génération. Donc on a pris les jeunes de moins de 28 ans et plus de 28 ans, considérant que c'est les réponses que nous ont un petit peu obligés à faire cette catégorisation. Alors les jeunes et les adultes, ce sera un petit peu, c'est la variable discriminatoire qui nous permet de voir les différentes réponses. Pour les Camerounaises, parce qu'elles représentent la communauté la plus importante. Alors les motifs. Les motifs économiques, c'est un élément indéniable. Mais lorsqu'on analyse le profil, on se rend compte que peut-être il y a lieu de nuancer le motif économique. Motif familial, regroupement familial, surtout pour les hommes, c'est 25. Les femmes qui regagnent leur mari, c'est 25%, et les autres, c'est 13%. Alors, premier constat, c'est que ça confirme le facteur économique, mais ce qui nous pousse un petit peu à vérifier est-ce que ceux qui viennent ici à la recherche du travail, ou bien ils viennent ici pour chercher un travail meilleur. On le prend par la situation avant le départ. Alors, pratiquement 14% étaient en train de faire leurs études. 11%, ils étaient des femmes au foyer. Mais là, 70% étaient des femmes en activité. Donc, qui ont des activités diverses, ce qui nous pousse à expliquer que le projet de migration n'est pas exclusivement poussé par le non-travail, mais plutôt par la recherche, la gestion d'une carrière professionnelle et de recherche de meilleures ressources. Alors, on va aller un peu plus loin pour voir le niveau d'instruction, est-ce que ça confirme un peu ça. Alors, on se rend compte que le gros des effectifs se situe entre le moyen, le secondaire, et un peu, mais la part de l'universitaire n'est pas à négliger. C'est déjà un atout pour cette migration qui vient chez nous et qui peut devenir un facteur de développement. Troisième élément, c'est la situation familiale. La majorité, ce sont des célibataires. Et les célibataires, c'est un facteur, mais qu'on s'est rendu compte qu'il pose un autre problème. C'est un problème, lorsqu'une fois ici, les mariages entre migrants en situation irrégulière, ça pose le problème du statut juridique du mariage et le statut juridique des enfants qui sont nés. Et puis le mariage entre Algériens et subsahariennes et qui pose aussi problème parce que tout en étant en situation irrégulière, et la loi ne reconnaît pas l'acte de mariage. L'élément qui concerne le profil. Maintenant, quelques éléments qui concernent la construction de l'objet, du projet lui-même. Le voyage, comment il est, le financement du voyage. Le premier élément, c'est que la plupart sur leur économie personnelle. L'empreinte, c'est des proches, 15%, et autres moyens. Le plus important, c'est que les économies personnelles, ce qui signifie que même pour partir, c'est la thèse un petit peu qui a été développée un peu partout, ceux qui peuvent partir, ce ne sont pas les pauvres, mais plutôt ceux qui ont les moyens de partir. Donc, c'est les économies personnelles qui ont fait que le projet est construit, sciemment construit. Il y a des sacrifices qui ont été faits par les acteurs de la migration et que, en fin de compte, ce n'est plus par envie seulement de voyager, mais plutôt par... Parce qu'on a entendu un peu au cours des dernières années, ici en Algérie, à propos des Nigériens, disant que c'est des gens qui veulent ici venir et se trouvent dans la mendicité, donc ils préfèrent que, au lieu de travailler, au lieu d'aller travailler ou de faire dans les bâtiments et les travaux publics, ou bien dans les services, et ça leur rapporte plus tout en étant en faisant de la mendicité. Alors, l'année de départ, pour voir un peu, est-ce que c'est une migration récente, une migration... la plupart, c'est avant 2014. 2015, c'est 22%, donc c'est un peu pour dire que les flux, la visibilité des migrants subsahariens, bien qu'il a l'air d'être un petit peu récente, mais en fin de compte, c'est un effet de visibilité plus qu'un effet de constitution d'une migration. La durée du voyage, donc on va voir un petit peu ce que... plus d'un mois, c'est pratiquement 80% des femmes. Plus d'un mois, c'est 20%, ce qui signifie que il y a une... La durée d'un mois signifie qu'il y a une organisation derrière de ce voyage. Cette organisation, on peut la voir que les migrants, le guide qui a servi aux femmes pour venir en Algérie, c'est les autres migrants, 70%, mais le phénomène de passeurs existe. Et très important, 22%, c'est que ça c'est autre 9%, 10% enfin. Alors, est-ce que durant ce voyage, les femmes ont subi... On n'a pris quelques éléments significatifs, mais on n'a pas pris tous les éléments. Est-ce qu'ils ont subi des violences? 40% oui, et 59% non. Mais le fait qu'il y ait 40% qui ont été déclarés, c'est un élément qui doit être pris en considération et étudié. C'est le regard. Alors, est-ce que maintenant, pour terminer avec ça, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce que lorsqu'on venant, et est-ce qu'ils sont conscients des risques qu'ils encourent au cours du voyage? Tout à fait conscients, pratiquement 70%. Ne doutons pas des risques, 16%, et puis informés des risques, ce qui signifie que peut-être le projet, un autre élément de construction du projet, la conscience, c'est quand les femmes, tout en venant, savent à l'avance la durée et la dureté du voyage, et que parfois, ce qui signifie que ce n'est pas une fuite, mais c'est un projet mûrement construit et que c'est un projet de vie. Alors maintenant, ça c'est la construction, l'installation ici en Algérie. La plupart sont des demandeuses d'asile. Certaines vivent sans document et certains vivent peu avec un faux document. Bien sûr, on ne déclare pas qu'on a un faux document. Mais le problème, la signification, c'est que c'est la situation d'asile et que là, sur ce côté-là, il y a tous les étrangers qui veulent demander d'asile. La procédure à obtenir l'asile est très complexe et très difficile, dans la mesure où, disons que pour le moment, l'Algérie n'a pas une politique d'asile. La loi d'asile est en train de discussion, mais la démarche elle-même est très complexe et que le bureau qui est installé au niveau du ministère des Affaires étrangères ne fonctionne plus. Et que même le seul organe qui est en train de gérer un peu, c'est l'OCR, mais dans certaines limites, ce qui fait que les seuls réfugiés reconnus sont les Sahraouis et les Palestiniens, et le nombre de subsahariens est très 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 limité. Est-ce qu'on a voulu un peu savoir est-ce qu'ils ont, ils ont été objets de refoulement? Le chiffre nous pose un peu des interrogations. Dans la mesure où 80%, pourquoi ce chiffre de 90%? Ce chiffre ne prend pas en considération les dernières opérations. Et lorsqu'on a fait cette enquête, il y avait, au moment de cette enquête, l'État a décidé de suspendre les refoulements et les expulsions, ce qui nous a donné un peu cette réponse. Alors, le lien, il y a des liens avec les Algériens. 80% ont établi des liens avec les Algériens, mais la majorité déclare qu'ils ont des problèmes avec les Algériens. C'est-à-dire, les liens existent, mais les difficultés sont difficiles à surmonter, de différentes manières, jusqu'à la violence, jusqu'au racisme. Et on trouve ça même au niveau de différentes catégories de femmes. Est-ce qu'ils ont une autonomie, ces femmes ont une autonomie financière, dépendant toujours de leur mari, de leur... soit la majorité n'ont pas d'autonomie financière, donc ils vivent ou bien ils dépendent pour leurs besoins de leur mari ou bien des proches. Est-ce que ces femmes ont des enfants ici en Algérie pour avoir un peu le problème de la scolarité? Oui, 26%, et non, 73%. Mais ça n'empêche pas que la scolarisation des enfants se pose depuis les années. Alors, dernier élément, Mathieu, pour un peu, c'est la reconstruction de projets. On a pris un élément, on n'a pas eu très loin. Rester en Algérie, 4%. Retour au pays d'origine, 44%. Aller en Europe, 47%. Autre. Mais il faut préciser que si rester en Algérie n'apparaît pas comme un projet dominant, ce n'est pas parce que dans l'esprit... Ce n'est pas un projet, mais parce que dans l'entretien de ce projet par rapport au projet initial qui est de partir en France, en Europe, partir en Europe reste un petit peu comme étant un projet qui modère un peu le rapport avec le pays d'accueil, d'où nous on a appelé ça une installation d'attente. Mais en observant l'évolution de la gestion des flux migratoires, peut-être maintenant et dans l'avenir, tout laisse présager que peut-être la tendance à s'installer définitivement, ou bien s'installer définitivement, est plus forte que le retour ou le départ vers l'Europe. Alors ça nous donne un petit peu un défi pour la société, un défi pour l'État, dans la mesure où, d'une manière ou d'une autre, est appelé à avoir une politique d'immigration. Et avoir une politique d'immigration, il y a des facteurs économiques qui poussent à que l'Algérie ait des facteurs et une politique d'immigration. Le vieillissement de la population, et d'ici peut-être dans une cinquantaine d'années, on aura besoin de la main-d'œuvre étrangère, et que cette main-d'œuvre étrangère, peut-être il y a lieu de commencer dès maintenant à la préparer pour l'installation, que d'attendre la dernière minute pour un peu procéder du point de vue aussi géostratégique, dans la mesure où les flux vont être plus sud-sud que nord-nord, sud-nord, et que l'inversion des flux va se concentrer entre les pays de maghrébins, et ce qui nous pousse d'une manière ou d'une autre, qui met la société algérienne, l'État algérien, devant le devoir de réfléchir sur une politique migratoire, ce qui, pour le moment, n'est pas fait. Pour le moment, l'Algérie n'a pas de politique d'accueil des migrants. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la loi de 2008, on parle d'étrangers. Mais on ne parle pas d'étrangers résidents et d'étrangers non résidents. Et l'étranger résident, lorsqu'il veut s'installer définitivement en Algérie, il ne peut faire que par l'obtention de la nationalité. Il devient algérien. Ce qui fait qu'on passe de l'étranger comme catégorie juridique à l'Algérien comme citoyen. Mais il n'y a pas les migrants comme citoyens, et les migrants, et c'est une situation du point de vue juridique qui n'est pas adaptée et qui pose des problèmes d'ordre de droit et de problèmes humains.
Donc, merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.